Radio, il est 4h. Sud Radio. Parlons vrai.
Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité. En vente exclusive sur aper-mode.com. Présente.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Eh bien, Radio France, on va en parler. Licenciement d'un journaliste, ben ça arrive, et pourquoi pas, si le journaliste a fait que, comme dans n'importe quel métier, une faute professionnelle ou une faute grave, eh bien, il est licencié, c'est normal. Mais là, on peut se poser quelques questions et on va les poser.
Sud Radio Berkov dans tous ses états, les perles du jour.
Et je lui dis, toi tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi tu pues, et marche à l'ombre.
Bon, je ne pense pas que ce soit en ces termes que la direction de Radio France a formulé son souhait de se séparer de Jean-François Akili, journaliste politique. Non. Mais enfin, quand même, voilà, lundi dernier, le groupe de radio, Radio France, a pris la décision de licencier le journaliste politique de France Info et présentateur de l'émission Les Informés, Jean-François Akili, pour faute grave. Licenciement, donc, pour faute grave, qui a été confirmé un peu partout, donc voilà. Je rappelle qu'il y a un mois et demi, le journaliste Akili avait été déjà suspendu à titre conservatoire après des révélations du journal Le Monde, affirmant qu'il avait collaboré à l'écriture de l'autobiographie du président du Rassemblement National, Jordan Bardella, tête de liste, effectivement, du RN pour les européennes. Voilà, donc, on lui dit conflit d'intérêts. Selon la direction, le journaliste aurait collaboré sur une période de 9 mois au projet de Jordan Bardella, évoquant même un travail sur le fond avec des épreuves corrigées. Jean-François Akili a réagi à l'époque, donc quand ça s'est passé, le 15 mars dernier. Avec cette mise au point, il dit « Je n'ai enfreint aucune règle professionnelle ou déontologique. J'ai échangé avec Jordan Bardella, comme je le fais avec tous les responsables politiques depuis 25 ans. » Nous avons parlé à sa demande de ce que pourrait être son expression pour un livre d'entretien. J'ai refusé le projet. Depuis quand les journalistes politiques ne peuvent-ils plus échanger avec l'ensemble des responsables politiques ? Je suis abasourdi par la brutalité de la mesure injustifiée prise à la direction de France Info à mon encontre, qui nuit gravement à ma réputation. Sauf que, ce n'est plus cela, c'est vraiment, on le licencie pour faute grave. Alors, que dit la direction, effectivement, de Radio France? Il dit ceci, il dit, voilà, c'est une série de conflits d'intérêts, et effectivement, et puis il aurait, Jordan Bardella, fait du média training depuis 10 ans avec des politiques pour une société de conseil en communication, il y a un conflit d'intérêts, etc. Bien. On peut comprendre, mais on se pose quand même des questions, parce que nous tous, enfin, on est dans les médias, en tout cas moi personnellement depuis des dizaines d'années, je n'ai jamais fait de média training de ma vie, effectivement, et je n'ai pas fait le livre d'un politique, mais je n'ai pas écrit, j'ai contribué à écrire, j'ai écrit 46 bouquins, mais c'est pas ça le problème, ce n'est pas moi le problème. Le problème est de savoir si, effectivement, à partir du moment où on prend, on fait le livre d'un politique. Vous savez, moi je connais, je ne peux pas citer, on n'est pas là pour citer des noms, etc. C'est pas une question de dénonciation ou pas. Mais il n'y a pas un seul politique, je dirais. Allez, j'exagère, en tout cas la majorité, la grosse majorité des politiques n'ont pas écrit leur livre sans l'aide d'un journaliste. Ça, je peux vous le dire. D'ailleurs, quelques-uns le citent les journalistes qui ont participé. Mais en tout cas, énormément de politiques, vraiment énormément, qu'ils soient députés, qu'ils soient sénateurs, qu'ils soient ministres ou même président de la République, eh bien, ils ont travaillé, ils ont fait, ils ne sont pas des écrivains, on peut le comprendre, donc ils ont fait appel à des plumes. Ça se passait comment ? Eh bien, ils faisaient des questions-réponses et après, effectivement, c'était écrit à la première personne. Et quelquefois à titre d'entretien. Alors, qu'il y ait eu des pourparlers avec Jordan Bardella, mais est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est parce que c'est Jordan Bardella? Parce que, encore une fois, le nombre de journalistes qui ont travaillé avec un aussi grand nombre aussi de politiques est quelque chose qui est une vérité de la palisse que tout le monde sait, qui est une pratique qui se passe depuis des décennies. Et est-ce qu'il faut licencier quelqu'un pour faute grave là-dessus? Alors, on peut se poser la question en tout cas, mais ça me paraît quand même assez assez limite, très franchement. Encore une fois, moi, si un journaliste donne de fausses informations, si un journaliste donne des résultats d'enquête alors qu'il n'a pas fait l'enquête, si un journaliste vraiment devient propagandiste, parce que malheureusement, il y en a, ce n'est évidemment pas la majorité de l'espèce, parce que des journalistes qui travaillent bien, qui font très bien leur métier, il y en a énormément. Il y en a hier, il y en a beaucoup aujourd'hui, et il y en aura encore demain. Mais là, c'est vrai que cette histoire de Radio France, service public, qui licencie pour faute grave. Alors écoutez, on aimerait en savoir plus, mais personnellement, c'est toujours quand même une histoire très forte au moment où la liberté d'expression connaît les obstacles qu'elle connaît, au moment où la liberté d'expression est combattue sur plusieurs fronts, en France et ailleurs, au moment où on dit que non, c'est pas important, ce qui est important c'est la sécurité, c'est pas la liberté, mais il n'y a pas de vraie sécurité sans liberté, ne l'oubliez pas, et n'oubliez surtout pas que la liberté ne s'use que si l'on ne s'en sert pas.
Et ce que reproche aussi Radio France, c'est de ne pas avoir Jean-François qui n'a pas alerté sa direction et que c'est dans la charte de France Télévisions et de Radio France. Et puis aussi, il annonce saisir les prud'hommes.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face.
Et dans ce face-à-face, aujourd'hui, André Berkov, vous recevez l'essayiste Michel de Rosen qui vient nous voir pour son livre Fraternité, écrit aux éditions Odile Jacob. Bonjour Michel de Rosen.
Bonjour. Alors, Michel de Rosen, je trouve que vous avez un esprit à la fois de sacrifice et de courage qui mérite l'admiration. Parce que parler aujourd'hui de fraternité dans le paysage mondial et national qui nous occupe me paraît une entreprise intéressante, audacieuse et presque, j'allais dire, mais pour vous provoquer un peu, qui me paraît relever du vœu pieux. En même temps, votre livre est très intéressant parce que vous avez fait une histoire de la fraternité, parce que vous parlez effectivement de ce que peut vouloir dire la fraternité dans le monde qui nous occupe, dans le monde un peu opaque, un peu glauque, un peu évidemment contrasté et conflictuel. Mais justement, vous avez le mérite de rappeler qu'il y a une fraternité à la base et pas partout en France. Et si on veut voir la fraternité quand même, il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans les hôpitaux ou en des difficultés structurelles qu'on leur a imposées. Le personnel, les infirmiers, je ne prends que ce cas, est extraordinaire. Et tous ceux qui sont allés à l'hôpital pour une raison ou pour une autre, même que pour avoir des amis, la fraternité existe, on l'a tous rencontrée. Mais faut-il pour cela, vous croyez que c'est quand même quelque chose qui peut nous sauver? Parce que vous êtes très optimiste, Michel de Rosen. Vous dites oui, faut pas oublier la fraternité ou la mort.
Alors d'abord, André Berkov, merci de me recevoir. C'est un honneur pour moi de venir parler ici à l'antenne de Sud Radio. Et évidemment, parler de fraternité. Vous savez pourquoi j'ai écrit ce livre sur la fraternité? La principale raison est que j'ai écrit avant un livre sur l'égalité et j'ai constaté qu'en France, on parle beaucoup d'égalité et on s'intéresse très peu à la fraternité. Alors Victor Hugo a expliqué cela. Il a dit, mieux que je ne vais le dire maintenant, que la liberté et l'égalité sont vues par les Français comme des droits et la fraternité est vue comme un devoir. Et les Français préfèrent leurs droits aux devoirs. Il m'a semblé donc, j'ai découvert en travaillant sur l'égalité, que la fraternité était un peu le parent pauvre et qu'elle méritait un coup de zoom, un coup de projecteur. Et cette enquête, j'ai rencontré des centaines de personnes, j'ai lu beaucoup de livres, m'a permis de constater que la fraternité dans le monde, pas seulement en France, est en crise parce qu'elle est assiégée par un certain nombre de forces qui sont simultanées. Je ne vais pas toutes les citer ici, il y en a 7 dans le livre, mais je voudrais en citer 2.
Allez-y.
La première, c'est l'exode rural. Sud Radio est écouté à la fois dans des villes et dans des villages. Dans un village, tout le monde se connaît. on s'entraide. Il y a de temps en temps des bisbilles, mais tout le monde se connaît. Dans une ville, c'est la solitude. On ne se connaît pas. Et donc le passage de la vie dans les villages à la vie dans les villes est un facteur d'affaiblissement de la fraternité. Je prends un deuxième exemple. Deuxième force qui affaiblit aujourd'hui la fraternité. La montée du narcissisme.
Et moi, et moi, et moi, c'est ça.
Moi, Narcisse, n'est-ce pas, regardait son reflet dans l'eau. Il ne savait pas qu'il se regardait lui-même. Il voyait un reflet, il se disait, mais comme il est beau. Et il passait beaucoup de son temps, presque jusqu'à la mort, à se regarder ainsi. De nos jours, il y a beaucoup de moi, moi, moi. Vous allez dans le métro et vous voyez des gens avec des casques qui le écoutent portable. Quelque chose ou qui sont dans leur portable et qui ne font pas attention à la vieille dame qui titube un peu et qui aurait bien besoin que quelqu'un lui cède son siège. Je prends cet exemple-là. Je prends un deuxième exemple. C'est les gens portent des sacs à dos. Les sacs à dos, c'est formidable. Mais quelquefois aussi, les gens ont des sacs à dos. Oui. Et ils vous donnent un coup de sac à dos sans même s'en rendre compte, sans s'excuser. Il y a donc beaucoup de moi, moi, moi. Il n'y a pas assez d'attention à l'autre. Et puis la troisième force parmi les sept que je cite, c'est la montée des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, quand ils sont apparus au début de ce siècle, nous avons été nombreux à croire qu'ils allaient construire une société plus fraternelle, plus humaine, plus unis. Je crois que malheureusement, les réseaux sociaux ont fabriqué une société plutôt moins fraternelle et je dirais plus clanique. Est-ce que vous savez qu'il y a 2000 ans, les plus beaux, les plus grands discours de Cicéron étaient sur la fraternité qu'il voyait comme un danger ? Car il disait, c'est dans le livre, que la fraternité, c'est des gens qui se mettaient en groupe et qui menaçaient l'unité de la ville de Rome et de l'Empire romain. Et donc, la fraternité, en réalité, elle a deux visages. Elle a un visage, la famille Corleone dans la mafia, elle vivait une forme de fraternité.
C'est fraternel, oui.
Il y a donc des fraternités qui sont nocives, qui sont toxiques, et il y en a d'autres qui sont magnifiques.
Il faut être effectivement extrêmement nuancé là-dessus, et vous avez raison de l'être. On va continuer à en parler, y compris des réseaux sociaux et de tout le reste, après cette petite pause.
Sud Radio Nice, 97.9 et en DAB+.
Sud Radio.
D'abord vos corps qui se séparent, et seul dans la lumière des phares, et t'entends à chaque fois que tu respires, comme un bout de tissu qui se déchire, et ça continue encore et encore, c'est que le début d'accord, d'accord. L'instant d'après, le vent se déchaîne, les heures s'allongent comme les semaines. Te retrouves seule assise par terre, à bondir à chaque bruit de portière. Mais ça continue encore et encore, c'est que le début d'accord, d'accord. Quelque chose vient de tomber sur les lames de ton plancher. C'est toujours le même film qui passe. T'es toute seule au fond de l'espace. Les mêmes endroits, deux fois trop grands. T'avances comme dans des couloirs. Tu t'arranges pour éviter les miroirs. Mais ça continue encore et encore. C'est que le début d'accord, d'accord. Quelque chose vient de tomber sur les lames de ton plancher. C'est toujours le même film qui passe. Tu l'oublies à longueur de journée.
crois qu'il est de l'autre côté du pôle. Dis-toi surtout qu'il ne reviendra pas. Et ça te fait marrer les oiseaux qui s'envolent. Les oiseaux qui s'envolent. Les oiseaux qui s'envolent. Il compte les chances qu'il te reste. Un peu de son parfum sur ta veste. Tu avais dû confondre les lumières. D'une étoile et d'un réverbère. Mais ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Y'a des couples qui se défendent sur les larmes de ton plafond. C'est toujours
français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Oh, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon.
Les mineurs de fond, très 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 belle chanson, évidemment, chanson culte de Pierre Bachelet. Vous nous avez demandé même de la passer, Michel de Rosen, pourquoi ?
Alors, j'ai en effet demandé que vous passiez cette chanson parce que je trouve que c'est une des plus belles chansons sur la fraternité. Les mineurs de fond, c'est le titre de la chanson. Ils avaient une vie dangereuse, ils avaient une vie difficile, ils avaient une vie épuisante. Quand ils partaient à la retraite, ils étaient souvent cassés. Mais il y avait entre eux une entraide, une fraternité, un respect mutuel qui force l'admiration. Et si vous le permettez, André Berkoff, je crois que c'est un des éléments de la crise de la fraternité. Il y avait avant, en France et ailleurs, de grandes organisations, l'Église catholique, le Parti communiste, les charbonnages, dont les salariés et les familles vivaient ensemble dans une réelle fraternité. Quand j'étais enfant, j'ai été dans des colonies de vacances catholiques et j'ai été aussi dans une colonie de vacances communiste, d'accord, en Russie, près d'Odessa. Eh bien, dans les colonies de vacances de ces grandes organisations, la fraternité ruisselait. On était ensemble, on se faisait des amitiés pour la vie. La chute de ces grandes organisations, leur déclin, est aussi un des aspects de la crise de la fraternité.
Vous voulez dire qu'il y avait ce qu'on appelle, que ce soit idéologiquement ou spirituellement, des colonnes vertébrales ?
Des colonnes vertébrales et des communautés.
Et des communautés, d'accord. Mais alors justement, et pendant tout le temps que je lisais votre livre, qui encore une fois est très intéressant parce que vous parlez de beaucoup de choses, et je le recommande ce livre, mais je me disais au fond, est-ce que la fraternité n'est-elle pas, hélas, parce que qui ne veut pas être fraternel, et on la sent effectivement, n'est-elle pas un enfer pavé de bonnes intentions ? Les bonnes intentions de la fraternité ne peut être que quelque chose de très recommandable, et vous le faites et vous le démontrez. Mais en même temps, regardez, il y a les communautés, mais comment empêcher que les communautés se transforment en communautarisme ou en communautés fermées ? Vous savez, c'est les identités ouvertes, merveilleux, les identités fermées, les identités meurtrières, comme parlait l'écrivain Amin Maalouf. Et aussi, je vous pose une question, mais c'est lié, vous parlez des réseaux sociaux. Même chose pour les réseaux sociaux, bien sûr qu'il y a des facteurs de clanification, de clans, de division, etc. Mais très sincèrement, il y a deux choses dans les réseaux sociaux qui sont capitaux, et je parle dans le bon sens du terme. Primo, il y a des gens qui pensent un peu différemment et qui ont l'impression qu'ils sont seuls. Et il faut bien dire que la plupart de la doxa de l'information penche vers une vérité révélée, le camp du bien, et que effectivement les réseaux sociaux vous donnent cette diversité. Je peux vous dire, je donne mon exemple, mais je ne suis pas le seul. Le nombre d'informations que je trouve et de chroniques et d'études qui m'ont été par quelques clics enlevés, guidés vers les réseaux sociaux. Et dans les réseaux sociaux, il n'y a pas que TikTok et le petit acte bref de 10 secondes. Il y a Thinkerview et tous les autres où vous avez des conférences de 2 heures, d'une heure qui vous enseignent, qui vous apprennent beaucoup de choses. Et puis des vérités que ne vous donnent pas, hélas, la plupart des transmetteurs d'informations. Donc, ce que je veux dire simplement, Michel de Rosen, et j'aimerais avoir votre réaction là-dessus, c'est qu'au fond, vous abordez un sujet qui est la langue de Zop, c'est-à-dire qu'il y a le meilleur du pire et le pire du meilleur. Comment trier le bon grain de l'ivraie ? Il est là, le problème.
Alors, il y a beaucoup de... Oui. Il y a beaucoup de sujets dans ce que vous venez de dire, André Berkoff. D'abord, vous avez parlé des communautés. Je développe dans le livre, vous l'avez lu, la thèse selon laquelle les communautés sont des lieux de fraternité. Je prends l'exemple de ma famille. Mes grands-parents sont des Russes dits blancs qui ont quitté la Russie à cause de la Révolution. Ils se sont retrouvés en France. Ils n'avaient pas un sou. Et ils ont créé, ils étaient à Asnières, une communauté de Russes. Ils ont construit une église dans une maison d'habitation, une église orthodoxe. Et puis ils ont bossé. Mon grand-père portait des meubles sur son dos il était brocanteur. Le frère de ma mère est entré à Polytechnique. Pour tout le quartier, ça a été un événement considérable. Donc, les communautés sont des lieux de fraternité et sont des lieux, quand les communautés fonctionnent bien, d'entrée d'intégration dans la République. Donc, la communauté, c'est bien. Le communautarisme, ça n'est pas bien. Je dis ça seulement parce que souvent, les gens qui condamnent le communautarisme ne se rendent pas compte qu'il y a des communautés qui sont des lieux de fraternité et de civisme.
Mais alors, pardon, juste un mot. Oui. Avant que, est-ce que dans le communautarisme, et je parle quel qu'il soit, de quelque religion, idéologie qu'il soit, que soient les communistes, ils se sentent aussi frères, la fraternité existe. Après, on peut ne pas aimer ce qu'ils pensent, leur idéologie ou leur croyance, mais la fraternité existe aussi, non,
mais,
Michel Rosen ?
Vous avez tout à fait raison, et la fraternité, ça n'est pas toujours bien. La fraternité... Il y a des définitions dans les dictionnaires qui sont assez austères. Moi, je propose une définition assez simple qui est « relation bienveillante à l'autre ». Il peut y avoir des relations bienveillantes entre les salauds, entre des criminels, entre des membres de la mafia. Et puis, il peut y avoir aussi, il y a des fraternités qui sont donc tournées vers elles-mêmes. Et puis, il y a des fraternités qui sont tournées vers les autres. Les petits frères des pauvres, c'est une fraternité généreuse. Les frères musulmans... qui ont le nom de fraternité dans frères musulmans, eh bien, je peux vous dire, ils ne s'intéressent pas du tout à la fraternité. Ce qu'ils veulent, c'est que l'islam gouverne le monde. Ils ne sont pas fraternels, ni entre eux, ni encore moins avec les autres.
Et
donc,
ce
que j'essaye de dire, c'est qu'il y a des fraternités nobles et respectables, et il y a des fraternités qui ne sont ni nobles, ni respectables.
Par exemple, pour vous, et vous en parlez dans votre livre, les Restos du Cœur sont un exemple de fraternité respectable.
Alors, les Restos du Cœur,
l'Abbé Pierre,
la Croix-Rouge, Emmaüs, il y a... Alors, je vais vous dire quelque chose de positif et quelque chose de moins positif. Le positif, c'est qu'on trouve en France d'admirables exemples de petites communauté, quelquefois d'une, trois, cinq personnes, ou beaucoup plus grande, comme les institutions que nous venons de citer, qui sont des lieux de fraternité, de générosité, et qui font du bien autour d'eux. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça prouve que les Français sont capables de fraternité. La mauvaise nouvelle, c'est que quand on fait des comparaisons internationales, on constate que les Français donnent à peu près moins que la moitié que ce que donnent les Allemands ou les Britanniques.
Vous voulez dire en dons
Quand on regarde les dons.
Oui, oui.
Alors, je pense qu'il y a des causes à cela. L'une des causes, c'est que nous sommes un pays vertical. Depuis Saint-Louis, on attend que le roi décide tout, règle tout, et même nous guérisse des maladies qui nous assaillent. Je raconte dans le livre un cas, j'étais chef d'entreprise d'une entreprise franco-américaine,
oui.
Et quand on faisait aux États-Unis deux fois par an une grande fête pour la collectivité locale, la commune qui nous accueillait, on ramassait de l'argent. Il y avait un siège de 2000 personnes. Les Américains donnaient, et la centaine de Français qui étaient au siège ne donnaient pas. Parce qu'ils disaient, mais pourquoi je donnerais ? C'est l'État. Je paye des impôts, c'est à l'État de donner.
Ouais, ben oui.
Donc nous avons
des paye des impôts, ça va déjà, ça me... Ouais.
Voilà. Donc, je pense que l'État, malheureusement là-dessus, est un problème, parce qu'il conduit trop de Français à considérer que, quand j'ai un problème... Ça n'est pas à moi de m'en occuper,
c'est à l'État.
Ni avec mon voisin de droite, ni mon voisin de gauche, c'est à l'État de s'en occuper.
On va en parler de cela, effectivement.
Mais je n'ai pas encore répondu à votre question sur les réseaux sociaux.
Voilà, on va revenir là-dessus juste après une petite pause qui va nous permettre, non pas de souffler, mais d'approfondir encore.
Écoutez Sud Radio Valenciennes en DAB+.
Sud Radio.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Fraternité, fraternité, c'est le titre du livre de Michel de Rosen aux éditions Odile Jacob. Un livre effectivement qui parle, c'est vrai, comme Michel de Rosen, comme vous l'avez dit, on parle beaucoup de liberté et d'égalité, et la fraternité a un peu fait figure de parent pauvre, ce qui n'est pas du tout. Et on avait, effectivement, je vous avais lancé sur les réseaux sociaux, donc j'aimerais qu'on en reparle.
Alors,
vous disiez, vous, les réseaux sociaux, oui, il y a effectivement, vous n'avez pas tort, hein, mais il y a aussi l'autre côté.
Je développe en effet dans le livre la thèse selon laquelle les réseaux sociaux, j'appelle ça le blitzkrieg des réseaux sociaux, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est un mot allemand qui signifie guerre éclair.
Et que la guerre éclair.
Donc je dis qu'en peu d'années, les réseaux sociaux sont passés de l'inexistence à une omniprésence, et qu'en effet, les réseaux sociaux, dont on attendait qu'ils fabriquent un monde plus fraternel, ont fabriqué un monde plutôt moins fraternel. Pourquoi ? Parce que les réseaux sociaux ont tendance à pousser les gens à se retrouver entre eux, à se retrouver avec ceux qui sont d'accord avec eux, et à s'éloigner, ou à ignorer, ou à combattre, voire, hélas, à insulter ceux qui ne pensent pas comme eux. Maintenant, André Berkov, vous avez, si je puis me permettre, mon avis, entièrement raison. Les réseaux sociaux sont aussi un formidable instrument d'études, d'analyses, de réflexions. Pour écrire ce livre sur la fraternité, j'ai beaucoup utilisé les réseaux sociaux, j'ai trouvé ainsi des livres, des écrits, des sources bibliographiques que j'aurais eu beaucoup plus de mal à trouver si je n'avais pas pu utiliser les réseaux sociaux. Mon souci, en réalité, André Berkov, est le suivant. C'est que les jeunes sont lancés, pour beaucoup d'entre eux, dans la nature, dans le monde des réseaux sociaux, sans guide. Mmh. Et de manière générale, pour les réseaux sociaux comme pour la fraternité, je pense qu'il ne faut surtout pas que l'État fasse quelque chose. Les deux mondes qui doivent intervenir et aider les jeunes à être à l'aise dans ce monde du 21e siècle, c'est d'une part les familles et c'est d'autre part les enseignants. Les familles ont un rôle à jouer pour expliquer à leurs enfants, jour après jour, semaine après semaine, pas leur expliquer seulement avec des mots, mais leur expliquer avec de l'exemplarité, en leur donnant des modèles pour leur dire c'est quoi les valeurs importantes dans la République. Il ne suffit pas d'écrire sur les bâtiments publics liberté, égalité, fraternité, il faut aussi que les jeunes comprennent qu'est-ce que ça veut dire.
Comment ça s'incarne ?
Et du coup, quelles sont les lignes rouges qu'il ne faut pas franchir ? Et je pense que là, il y a un rôle des parents qui est souvent oublié. Et il y a deuxièmement, ce d'autant que la plupart des familles marchent bien. Il y a des institutions qui se cassent la figure en France et ailleurs, mais les familles en général, et l'amour familial, l'amour qui unit les familles, c'est dans la plupart des familles encore une réalité, et c'est même un trésor. Donc, le deuxième monde qui doit intervenir, c'est les enseignants. On a tous été à l'école, et certains d'entre nous sont aussi enseignants. Le pouvoir des enseignants, l'influence des enseignants sur leurs élèves est colossale. On n'a pas besoin que le ministre ou la ministre donne des instructions. Un professeur de musique, ou un professeur d'histoire-géographie, ou un professeur de lettres ou de sciences peut très bien décider que, dans quelques jours, il prend le lundi, une heure, et il dit aux élèves, je vais vous parler de fraternité. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Moi, quand j'étais au lycée, j'étais heureux d'être au lycée, mais jamais un professeur ne m'a parlé des valeurs de la République et jamais un professeur ne m'a parlé de fraternité. Donc, ma prière, mon cri avec ce livre, c'est que la fraternité, pour qu'elle existe, il faut en parler et il faut expliquer ce que c'est.
Alors, là-dessus, nous sommes tout à fait d'accord. Le problème, c'est que, évidemment, c'est toujours pareil, on regarde la face claire et la face obscure, le côté obscur de la force et la face claire de la force. Vous savez très bien aujourd'hui qu'il y a une partie, et je suis tout d'accord avec vous, de la France, et heureusement une grosse partie, et j'espère la majorité, où les familles sont heureuses et en tout cas fonctionnent en solidarité, pour ne pas appeler, et en fraternité. Et vous avez toute une partie, la France, qui n'est pas négligeable. Vous avez soit des familles monoparentales, soit des familles divorcées, soit, enfin, tout ce qu'il y a. Et donc, effectivement, la vertu pédagogique n'est plus là. Et surtout, je voudrais...
Mais reste pour cela les enseignants.
Alors voilà, on va parler des enseignants. Mais quand le pédagogisme est arrivé chez nous, et quand on a mis l'enfant roi au centre du savoir, et il n'était plus question de transmettre du savoir, je ne mets même pas de la fraternité. Vous et moi, nous avons appris l'histoire de France, nous avons appris les auteurs, nous avons appris ceci, nous avons appris une espèce de langage civilisationnel, qui avait du bon, qui avait du mauvais, etc. Mais il y avait cela aujourd'hui, même les enseignants, vous le disent en tout cas beaucoup d'enseignants, alors je ne dis pas qu'on ne fait plus rien à l'école, loin de là, mais ce pédagogisme à sens unique a fait que, effectivement, sur le plan que vous invoquez de la fraternité et des vertus fondamentales, on ne peut pas dire qu'elles sont cultivées avec beaucoup de bonheur et beaucoup de, je dirais, de zèle, parce que le programme des enseignants, ce que leur donne à faire, ce n'est plus, hélas, du tout cela. Et surtout, alors j'y arrive, et vous avez raison quand vous dites oui, mais les jeunes, voilà, il y a la télévision, la radio, etc. Moi, très sincèrement, et le vrai problème, parce que sur le fond, on est d'accord. Comment voulez-vous quand une partie du spectacle n'est plus de donner de la morale, mais uniquement de savoir ce qui va satisfaire tel ou tel consommateur? Quand le problème, c'est le consumérisme à tout prix, je dis bien à tout prix dans tous les sens du terme, comment voulez-vous avoir de la fraternité à partir du moment où, effectivement, ce ne sont pas seulement les réseaux sociaux qui le font par ailleurs, mais même les spectacles, les télévisions. Regardez, juste un mot, Michel de Rosen, regardez le wokisme. Quand vous avez des grandes sociétés de cinéma et de spectacle qui, aujourd'hui, satisfont aux besoins du genre et qui font, même dans les programmes, regardez ce qui se passe dans l'éducation sexuelle à l'école, et je ne suis pas du tout pudibond ou bigot là-dessus. Enfin, il y a quand même des choses sur le genre, etc. Et c'est ça, c'est que ce que vous invoquez et que vous appelez de vos voeux pour tenir le gouvernail, mais ils ont changé de gouvernail, en tout cas certains. C'est ça le problème.
Si vous permettez, je voudrais prendre le sujet sous un angle un peu différent.
Allez-y.
Après que mon livre soit sorti, j'ai reçu des témoignages. L'autre jour, un chauffeur de taxi congolais... Mmh. Il connaissait mon nom parce que j'avais fait la réservation. Il m'a dit, je vous ai vu à la télévision l'autre jour. Bravo! vous dites ce qu'il faut dire, la fraternité, c'est important, il faut en parler, etc. Deuxième témoignage, un ministre qui fut un ministre important de l'époque de Mitterrand puis Lionel Jospin, je vais taire son nom, je trouve que c'est un ami, il a lu le livre et il m'a dit, tu sais, c'est bien ce que tu écris, mais c'est fichu. Alors lui, c'est l'école des gens sceptiques et plutôt pessimistes.
Ouais.
D'accord ?
Ouais.
Et puis je vous donne un troisième témoignage.
Et lui, il dit c'est fichu. Il dit oui, c'est plus possible.
Dans l'ère du temps, la société est devenue tellement narcissique, tellement matérialiste, que c'est très difficile de faire revivre la fraternité. Je vous donne maintenant un troisième et dernier témoignage. Un de mes très vieux amis est général en retraite. Il habite à Collioure. Donc, il écoute régulièrement Sud Radio. Alors, il a lu mon livre, il m'a dit, tu sais, depuis que ton livre est sorti, j'ai l'impression que les gens sont plus fraternels.
C'est gentil, ça, c'est un beau souhait.
Non, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Bien entendu, c'est pas mon livre qui a rendu la société française plus fraternelle. Mais j'observe, chez la plupart de ceux qui l'ont lu et qui m'en ont parlé, que ça les a fait réfléchir, et ça leur a permis de découvrir ou de redécouvrir la puissance extraordinaire, le trésor que représente la fraternité.
Oui,
la fraternité, on peut la donner et on peut la recevoir, et sous mille formes.
Tout à fait. Mais alors, Michel de Rosen, vous avez le mérite d'avoir remis la fraternité, en tout cas l'église, la fraternité, au milieu du village, comme on dit. Mais est-ce qu'il peut avoir, et ce que vous me dites m'incite à vous poser sa question, est-ce qu'on peut avoir de fraternité sans idéal ? Là, le problème, qu'il soit que l'idéal soit religieux ou laïque ou éthique, etc. Qu'est-ce qui provoque, qu'est-ce qui fait la fraternité ? Évidemment, on dit tous les hommes sont frères. Hein. Ça, c'est le côté, bon, c'est très bien, tous les hommes sont frères. Et rappelez-vous, si tous les gars du monde voulaient se donner la main. Ça, c'est la version... mais très bien, encore une fois, je ne ricane pas du tout là-dessus. Mais en fait, les choses étant ce qu'elles sont, comme disait un certain général... Est-ce que la fraternité ne s'enracine pas, que ce soit hier, aujourd'hui et demain, dans les retrouvailles avec des idéaux ? Et ce sont ces idéaux qui, aujourd'hui, on dirait qu'ils jouent un peu les... Ils sont partis sans laisser d'adresse, ou en tout cas, pour la plupart.
Alors, si vous permettez, je vais vous donner mon avis là-dessus.
Oui.
Nous sommes un peuple littéraire. On aime les grandes querelles. On aime les grandes envolées et on attend d'un chef de l'État qu'il soit brillant, qu'il écrive des livres.
Qu'il fasse le job quand même. Hein.
On attend
fasse
un peu de lui job, qu'il
quand
fasse
même,
le job.
Hein. Mais Michel de Rosen. On attend ça d'abord. Hein. On est d'accord.
Ouais. Vous et moi certainement, mais je constate que d'accord. Dans l'histoire de France au XXe siècle, on a souvent attendu du chef de l'État qu'il soit non seulement un chef,
bien
comme
sûr,
le disait général de Gaulle, et qu'il y ait un État, mais on a aussi attendu du chef de l'État qu'il soit littéraire. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que ce qui compte dans la fraternité, c'est moins l'idée que la réalité. Il faudrait éviter que la fraternité devienne un magnifique thème de débat, même radiophonique. Le plus important, c'est qu'elle soit vécue.
Oui.
Nous sommes ici à Sud Radio. À Sud Radio, il y a un sport qui est particulièrement respecté, c'est le rugby. Regardez la fraternité qui unit une équipe de rugby. Et ils ne se disent pas « nous sommes fraternels ». Ils la vivent, cette fraternité.
Bien sûr, ils l'incarnent.
Et évidemment, le rôle de l'entraîneur et du capitaine sont clés, car il doit veiller à ce que les énergies formidables de ses joueurs soient collectives, soient solidaires, et pas l'un contre l'autre. Donc, je voudrais éviter de contribuer à un débat de plus. Je voudrais plutôt contribuer à ce qu'un nombre croissant de Français se disent « Tiens, ben finalement, la fraternité, moi, qu'est-ce que je peux faire pour être plus fraternel ? Qu'est-ce que je peux faire avec mon voisin de gauche, ou avec mon voisin de droite, ou avec mes enfants, ou avec quelqu'un qui habite dans l'immeuble à côté et qui a l'air d'être vraiment seul ?» Je vous donne un chiffre. En France, en 2024, il y a 6 millions de Français qui voient 3 personnes par an, qui vivent donc une intense...
Trois
personnes par an, qui vivent une intense et âpre solitude. Eh bien, chacun d'entre nous passe quelquefois à côté de ces Français solitaires, souvent d'ailleurs des personnes âgées, certains en ville, d'autres à la campagne aussi.
Bien sûr.
Eh bien, rompre la solitude de ces Français-là, c'est un beau geste de fraternité.
Et alors justement, puisque vous dites il ne faut pas que ça soit seulement matière et débat, ce en quoi je suis d'accord... Mais vous savez, on le voit un peu partout. Est-ce que quand même ça, alors
comment ça peut devenir justement, je reviens à Victor Hugo, ce que vous dites, c'est, vous dites un peu ça comme un devoir, et c'est un devoir, effectivement, ce que disait le grand poète, le grand écrivain. Mais comment, effectivement, incarner cela, comment faire passer cela? Regardez les SDF qu'on voit dans une ville comme Paris et ailleurs, enfin bon. Est-ce que ce n'est pas un mot aussi qui est très important, qui a, alors lui, je dis pas disparu du vocabulaire, mais ça fait vraiment très ringard de dire la charité, le caritatif. Est-ce que dans fraternité, je crois qu'il faudrait aussi, pour vraiment inciter cela, moi je reviens, vous savez, c'est pas un débat d'idées l'idéal. C'est que beaucoup de gens se disent, écoutez, moi je fais ce que je peux, vous en avez parlé, moi je paye mes impôts, les Français que vous avez vus aux États-Unis, écoutez, moi c'est à l'État de faire ça, c'est ce que vous avez dit. Et je vous assure, et vous le savez très bien, beaucoup de gens se disent, oui, oui, moi j'aimerais bien, alors je donne une pièce, etc. Mais au fond, cet idéal de fraternité, et ce qu'on retrouve dans les associations, dans les clubs sportifs, dans la franc-maçonnerie, ou dans d'autres... et il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui, si on veut quitter le conflit d'intérêts, vraiment, ne doit pas être associé à la charité, au sens le plus noble du terme?
Alors, le terme charité en France a une connotation ambivalente.
Oui.
Pour beaucoup de gens, ça évoque une générosité bienvenue. Mais pour d'autres personnes, ça évoque le riche qui se donne bonne conscience en donnant une pièce ou un billet à un pauvre et qui ensuite, une fois qu'il a fait sa bonne action du dimanche, repart dans une vie égoïste et indifférente aux autres. Personnellement, dans une partie de ma vie professionnelle, j'ai servi l'État et puis ensuite je suis devenu dirigeant d'entreprise. Je trouve que si on laisse tous les actes de générosité à l'État, ça donne une société triste, froide, mécanique, bureaucratique, et que quand chacun d'entre nous s'implique dans une association, soit qu'on crée soi-même, soit qui a été créée par d'autres et qu'on rejoint, vous avez cité les Restaurants du Cœur, le jour je voyais l'admirable directeur général de la Croix-Rouge française, il me dit il a 79 000 bénévoles qui aident la Croix-Rouge française.
C'est formidable.
Certains quelques heures par semaine, d'autres beaucoup plus. Donc, quand vous rejoignez ainsi une initiative, vous ne le faites pas en obéissant, mais vous le faites en y mettant votre cœur, votre sensibilité, votre humanité. Eh bien, non seulement vous faites du bien à ceux que vous aidez, mais vous vous faites du bien à vous-même aussi.
Bien sûr.
Et donc, le terme charité, je répète, a une connotation un peu arrogante, un peu dépassée.
Paternaliste.
Et donc, je n'utilise pas ce terme-là, alors que le terme de fraternité est un terme dans lequel, à mon avis, tous les Français peuvent se retrouver et, si possible, se reconnaître.
Oui. Et alors justement, dans le livre, c'est intéressant parce que je voudrais aborder cela. Vous avez un chapitre passionnant, même plusieurs, sur l'histoire de la fraternité. Je voudrais que vous m'en parliez un peu. Comment c'est né dans le fameux slogan qui orne les frontons de tous les édifices publics de la République?
Si vous permettez, ou quatre grandes étapes. Si on remonte très loin dans le passé, j'ai retrouvé, c'est au Louvre, une pièce dans laquelle, pour la première fois, le mot fraternité a été utilisé il y a 4400 ans. D'accord ? Donc la fraternité, le mot fraternité est apparu en Mésopotamie.
En quelle langue à l'époque ?
Pardonnez-moi, la langue qu'on parlait en Mésopotamie.
Il y a 4000 ans. Mais ça a été traduit par les scientifiques en fraternité.
Et ça a été traduit comme fraternité.
D'accord.
Passons 2000 années et on arrive à Jésus-Christ et au christianisme. Quand Jésus...
Il n'y a pas de fraternité dans l'Ancien Testament, nombre de conceptions, c'est intéressant.
Non.
C'est avec les évangiles, avec Jésus-Christ.
C'est avec les évangiles.
D'accord.
Une fois que Jésus a passé les années qu'il a passées sur Terre, ses disciples se sont demandés, ils ont fait une sorte d'exercice de marketing en se disant qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme valeur qui nous permette de nous distinguer des autres et de rassembler des fidèles. Et ils ont choisi la fraternité qui à l'époque était, je l'évoquais tout à l'heure, critiquée par Cicéron, à Rome parce qu'elle était trop clanique, mais ils ont pensé que cette valeur allait permettre de rassembler tout le monde, les riches comme les pauvres, et les gens des différents peuples qui faisaient le pourtour de la Méditerranée.
Tout à fait.
Et du coup, c'est le thème « frère en Christ ». C'était une valeur de rassemblement. Puis, les siècles ont passé, et la fraternité a été oubliée, et, souvenons-nous, l'Église, les églises chrétiennes, ce sont, au XIe, XIIe, XIIIe, XIVe, XVe, XVIe siècle, pas mal perdues dans des querelles de pouvoir, d'argent, etc., etc.
Les guerres de religion,
les guerres de religion.
Tout ça,
Et alors, l'Église catholique a ensuite découvert ou redécouvert la question sociale avec la fraternité qui s'attache à elle au XIXe siècle. Mais si on vient maintenant à la France, avant la Révolution, quand vous regardez le dictionnaire dit de d'Alembert ou de Diderot...
L'encyclopédie.
La fameuse encyclopédie.
La fameuse encyclopédie.
Il y a quelques lignes sur la fraternité et quelques pages sur la fraternité d'armes, dont jusqu'à la Révolution, la fraternité, c'était celle qui unissait les combattants.
Les frères d'armes.
Puis arrive la Révolution...
On va parler de la Révolution parce que c'est fondamental, justement, après cette dernière petite pause.
Et puis pour agir, 0826-300-300, à tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio Lourdes.
102.2.
Sud Radio.
Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé, petite tempête s'est trouvée, des raisons de pleuvoir autant, qui pourrait l'aimer franchement, personne n'aimerait se retrouver, au cœur d'une tempête avouée, il y a des raisons de pleurer, elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages, et moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. S'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit. Nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens, rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Toujours avec Michel de Rosen qui vient nous voir pour son livre Fraternité aux éditions Odile Jacob. Et nous avons René qui veut réagir au 0826 300 300. Bonjour René.
Bonjour. Alors, j'ai une question. Avant, permettez-moi de dire, pour illustrer ce que disait monsieur sur les camps catholiques et les camps communistes,
oui.
Camps de vacances, évidemment,
oui.
J'ai vu récemment sur YouTube le témoignage d'un légionnaire qui s'appelait Tibor, enfin, ancien légionnaire,
oui.
Qui disait, partout où je vais dans le monde, il y a des légionnaires, que ce soit en Afrique du Sud, en Suède, etc., et nous sommes immédiatement, même si on ne s'est pas connus, nous sommes immédiatement plus que des copains, nous sommes des frères.
Ouais, fraternité.
Maintenant, je voudrais revenir sur liberté, égalité, fraternité. Il me semblait que la fraternité supposait fraternité entre Français, entre citoyens, ce qui était une notion nouvelle dans le monde, mis à part en Suisse quand même. Bon. Et je ne sais pas si vous voyez qui est M. Héroux. M. Héroux, ça fait 4 ou 5 fois qu'il passe en procès, parce qu'il aide des clandestins à traverser les Alpes.
Oui, 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 Cédric Héroux, oui, absolument.
Il est acquitté.
Oui.
Il est acquitté parce qu'on dit liberté, égalité, fraternité, donc la fraternité est un droit, on ne peut pas le condamner, ce que je trouve scandaleux, parce qu'il est peut-être fraternel avec les envahisseurs, mais pas avec ses compatriotes.
Mmh.
Parce que quand on est généreux avec, avec les étrangers, c'est jamais pour les mettre dans le 16e arrondissement de Paris. Mon village ainsi que les deux villages voisins des deux côtés et que la petite ville pas loin sont maintenant envahis par des Afghans, par des Noirs musulmans. La plupart ne parlent pas français, ils sont en groupe et ils ont l'air dangereux à leur manière, de, notamment de regarder les femmes. Et depuis, de, voilà, ils ne font rien, mais enfin, ils les encerclent, voilà, regarde. Ouais.
Et vous dites que donc le concept de fraternité, là, est utilisé d'une manière qui ne vous plaît pas.
Oui, moi, j'aimerais savoir en tout cas ce que monsieur pense sur l'origine de liberté, égalité, fraternité. Est-ce que c'est une fraternité universelle? Je ne crois pas, c'est une fraternité entre Français ou au moins entre citoyens. Parce que je veux rappeler quelque chose, avant la République, Mélenchon une fois avait dit la France est née avec la République en 1789. Ce comme quoi il y avait deux erreurs, puisque même sous la monarchie, la France c'était la France, c'était pas la Suède.
Non, bien sûr, on va pas rentrer là-dedans.
C'est la monarchie constitutionnelle.
Non, René, je voudrais que...
Monarchie constitutionnelle, l'hymne, c'était « Veillons au salut de l'Empire ».
Oui, René, on va arrêter là parce qu'on arrive en fin d'émission et je voudrais justement que Michel de Rosen vous réponde sur ce que vous avez dit. Fraternité, c'est quoi et à quel niveau? Évidemment, question des circonstances.
Alors, bonjour monsieur, merci de votre intervention. Vous avez évoqué deux points. Le sujet des légionnaires... C'est vrai, j'ai, comme d'autres, fait mon service militaire, j'ai gardé des habits dans l'armée, et au sein de l'armée, quand on risque sa vie avec ses collègues, on est extraordinairement dépendant des autres, et la fraternité est une valeur claire, forte, et j'ai envie de dire vitale, au sens propre du terme, pour des militaires qui combattent ensemble et risquent leur peau ensemble, et les légionnaires notamment.
Bien sûr.
Sur votre deuxième observation... Permettez-moi de faire une remarque juste historique. Pour nos grands ancêtres, qui soit au moment de la Révolution, soit au moment de la Deuxième République, soit au moment de la Troisième République, soit quand la France a été libérée en 44-45, soit quand le général de Gaulle a créé la Cinquième République, l'idée de la fraternité n'était pas limitée aux relations entre Français. Il y a eu en France depuis des siècles l'idée, certains trouvent que c'est même arrogant, moi je trouve que c'est beau, il y a eu l'idée que la France ne peut pas regarder que les Français et que la France a une sorte de devoir de solidarité aussi au-delà de ses frontières.
Ouais. Alors ensuite, nous sommes dans des circonstances très différentes aujourd'hui, hein. Mais ça nous amènerait très loin. En tout cas, c'est un livre à lire, Michel de Rosen, Fraternité, aux éditions Odile Jacob. Et la fraternité, voilà, chacun doit la pratiquer comme il le sent, mais doit la pratiquer.
Merci Michel de Rosen d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci André Berkoff d'avoir animé l'émission. On se retrouve demain entre midi et 14h. Et tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio. À demain.
Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff.
Avec Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité, en vente exclusive sur aper-mode.com.
Sud Radio Clermont-Ferrand.
88.1.
Sud Radio.
Je dépasse aisément toutes les limites. Quand je commence, je consomme énormément. Le but est de ressentir les choses. Alors je dépasse et j'aime en faire. Détonne, ça irrite les braves gens pleins de raisons qui respectent les limites. Hey, je ne me fâche.
je sais, quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Je sais, après, je vais payer pour ça. Ouais, je vais payer pour ça. J'ai dépassé les limites, aisément, facilement. Ouais, je dépasse les limites sans un problème éthique. Hey, je ne rêve pas, je sais, quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Je sais, après, je vais payer pour ça. Je vais payer tout ça. Je vais me retrouver au bagne. Je vais casser des cailloux en Guyane. Hey, je ne rêve pas, je sais, quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Les limites, aisément, largement. Quand je commence, je finis le travail proprement. Je consomme évidemment le plus possible de liquide et parfois même du solide, bien en chair, bien en rebond. Hey, je ne rêve pas, je sais, quand j'arrêterai, je vais quitter Paris.
Petit matin Sud Radio, 5h-6h30, Maxime Troulot.
Avec du Julien Doré pour se réveiller, ça fait du bien. 5h-6h30, petit matin, c'est parti sur Sud Radio. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre en direct. 4h56 en ce jeudi 2 mai. Heureux de vous retrouver, de continuer cette semaine tous ensemble en cette matinée. On va parler de beaucoup de choses, évidemment, avec toute l'équipe de la matinée, avec Laurie Leclerc dans un instant pour le premier journal de ce jeudi matin, avant de retrouver tout à l'heure Benjamin Anglaise pour le grand matin en cette semaine dès 6h30. Maxime à la réalisation ce matin pour cette matinée avec nos questions du jour. On va parler notamment bien de ces mobilisations hier un peu partout en France pour ce 1er mai. 210 000 Français selon la CGT, la moitié, 121 000 selon le ministère de l'Intérieur, avec cette séquence qui a marqué un petit peu, eh bien, notamment les réseaux sociaux. Raphaël Glucksmann empêché de manifester à Saint-Étienne. On vous pose la question d'ailleurs sur notre réseau social Twitter, maintenant qu'on l'appelle X. Êtes-vous choqué par ce qui s'est passé du côté de Saint-Étienne? Eh bien, vous nous le dites, et pour l'instant, vous nous dites plutôt non, hein, 74%. Et puis on parle de ce chiffre, 2 milliards d'euros, ça c'est ce qu'a rapporté les radars à l'État en 2023. Alors, selon vous, ces radars sont-ils suffisamment efficaces pour améliorer la sécurité sur nos routes? Eh bien là aussi, vous nous dites non, quasiment chiffre similaire, 79% pour le moment. Vous pouvez continuer à voter et à commenter sur notre compte Twitter. Mais avant de retrouver Laurie pour le journal, place à l'horoscope du jour avec Bénédicte.
L'horoscope Sud Radio.
Bonjour Bénédicte.
Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 2 mai.
Bélier, vous préférez la complicité au rapport de force. Vous attirez des succès relationnels très satisfaisants.
Taureau, ne demandez pas l'impossible. Votre exigence vous expose à des déceptions. Restez tolérant, agissez étape par étape.
Gémeaux, vous aurez plus facilement l'occasion de vous occuper de vous. Un brin d'égoïsme en ce sens vous sera favorable.
Cancer, vous devriez penser à prendre du recul. Vous vous apercevez que vous pourrez vous soulager par le dialogue.
Lion, vous allez vous extraire d'un rapport de force avec facilité. Ce qui vous semblait insurmontable se transforme en potentiel positif.
Vierge, d'humeur agréable, plus détendue, votre optimisme est au rendez-vous, idéal pour aplanir un conflit.
Balance, votre propre franchise vous fera du bien. C'est le moment de corriger des malentendus en dialoguant à cœur ouvert.
Scorpion, vous seriez bien inspiré de sortir de votre réserve. Vous avez besoin de vous extérioriser sans fausse pudeur.
Sagittaire, vous réussissez dans tout ce qui se présente. Ce sont vos qualités personnelles qui sont à l'origine de vos plus belles avancées.
Capricorne, votre nature excessive bat son plein. Mesurez vos paroles, au moins avec certaines
personne de votre entourage.
Verseau, vous ressentez l'envie de vous faire plaisir. Votre bonne humeur est communicative. Vous entraînez positivement votre entourage.
Poisson, c'est une très belle journée pour entretenir les échanges constructifs, tisser de nouveaux liens ou resserrer les rangs.
Merci beaucoup Bénédicte.
La météo Sud Radio.
La météo de ce jeudi matin avec Rémi et André, les orages qui ont sévi notamment en fin de soirée hier et cette nuit. Bonjour Rémi.
Bonjour à toutes, bonjour à toutes. Et bien après les forts orages de cette nuit, le temps s'améliore un tout petit peu sur la moitié ouest du pays où là le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies, mais encore des averses, notamment sur les Pyrénées avec de la neige dès les 1200 mètres d'altitude. Sur la partie est du pays, là en revanche, eh bien ce sera un temps pluvieux toute la journée. Depuis la Corse, la Provence, jusque vers l'Auvergne-Rhône-Alpes et le Grand Est, ainsi que vers les Hauts-de-France, le ciel va rester couvert avec pas mal de la pluie assez abondante d'ailleurs depuis le Jura jusque vers les Alpes et de la neige dès les 1600 mètres d'altitude. Bref, aujourd'hui, nous ne sommes pas sortis.